102.3
RLP
Bazar.
Et vous,
vous.
Bazar. Et vous.
Expert en rien, s'intéresse à tout. Et vous.
Allez, on s'installe en silence, s'il vous plaît. On traîne pas. Thomas, arrête de pousser Benjamin.
Ouais, madame, c'est lui qui a commencé.
Thomas, tu me réponds pas. Tu arrêtes et tu sors ton cahier d'anglais. Et Benjamin, c'est pas la grève des cahiers pour toi non plus, tu le sors aussi.
Madame, j'ai pas mon cahier.
L'année commence bien, dis donc. Benjamin, tu as déjà une croix pour oubli de matériel. Thomas, stop. Ça suffit. Arrête d'embêter tes camarades, sinon c'est la vie scolaire.
Benjamin, tu le dis.
T'es une grosse balance, toi, en fait.
Vas-y, c'est toi la pouquille, t'es sérieux.
Et là, les garçons, ça suffit, stop. Allez, j'en ai assez, vous vous levez tous les deux et direction la vie scolaire. J'en peux plus. Deux heures de colle pour comportement inadapté. Bad behavior, do you understand that for both of you? Now, just get out of my class.
What a bitch.
Hello, mes petits cochons d'Inde. Vous avez reconnu ce doux refrain de la rentrée? Eh oui, mais ne vous en faites pas, car la grande nouvelle, c'est que le Bazar et vous revient pour vous accompagner durant cette rentrée avec sa 11e émission, les gars. 11 émissions déjà, c'est quand même fou ça, c'est pas incroyable? Bon,
ouais,
ok, les vacances... Tu parleras après, temps de parole pour tout le monde après. Bon, ok, les vacances ont peut-être été un peu longues pour nous, mais c'est pas grave, parce qu'on est là et il y a toujours Benjamin.
Ouais.
Il y a toujours Thomas.
Oui, j'ai plus d'enthousiasme que Benjamin.
Ah, c'est trop mignon. Ça va les amis? J'ai une petite question pour vous d'ailleurs. C'était quoi votre matière préférée à l'école? Oui, ça tombe comme un cheveu sur la soupe comme ça, mais je m'intéresse à vous. J'ai envie d'en savoir plus sur vous maintenant.
Eh ben, figure-toi que j'ai absolument tout détesté. Oui. Non, le français, peut-être le français. Français, c'était pas si mal.
Moi, c'était les arts plastiques.
Mm-hmm. Et vous me posez pas la question, en fait.
Ah bah, et toi, Lisa, c'était quoi ta matière préférée à l'école?
Alors, moi, j'adorais les mathématiques, la SVT, la physique-chimie, le français, la philo...
Putain, tout notre être.
Ah, je suis tellement heureuse de vous retrouver, en tout cas, vous m'aviez manqué. Et vous aussi, chers auditeurs. D'ailleurs, on vous a concocté une émission au poil chou-fleur choubidouchou. Oui, j'invente des expressions, c'est comme ça. Renouveau, rentrée. Let's go.
Et vous?
Au sommaire, notre Thomas Railola, j'avoue, je vais parier les rimes, c'est la rentrée, nous parlera un peu de cette intelligence bien connue des jeunes, à savoir le fameux ChatGPT, et viendra l'interroger sur comment se réaliser en tant que femme. Benjamin interviendra ensuite dans son domaine favori, à savoir le cinéma, et plus précisément dans cette chronique sur les moments épiques au cinéma. Et je clôturerai, comme à mon habitude, cette émission par la petite chronique de Lily qui aujourd'hui sera une chronique coup de gueule. On en a gros, on en a marre, stop, révolution. C'est comme ça. Et bien évidemment, on n'oubliera pas de vous surprendre avec de nouvelles surprises créées spécialement pour vous, mes petites mouches tsetse. Allez, c'est parti. On démarre donc avec la chronique de Thomas. Thomas, dis-nous en plus sur ce chat GPT. Pardon. Envoyez le jingle.
Ça faisait longtemps, hein. Oh, dread these computers, they're so naughty
and so complex. I could pinch them. Comme l'a dit Lisa en introduction, on va parler aujourd'hui réalisation de soi. Et j'ai voulu savoir un peu quelles étaient les attentes des femmes afin d'être un homme moderne, tu vois. Tu vois, plus moderne que je le suis déjà.
Ça peut pas te faire de mal.
Merci. Du coup, étant un homme lâche, pléonasme, au lieu de poser directement la question à la dite jante, je suis plutôt allé poser la question à une intelligence artificielle, ChatGPT. Avant de vous livrer les confidences de ChatGPT sur cette thématique intrigante, je vais essayer de vous donner un peu une idée de ce qu'il est. Bon, pour éviter que je vous noie sous un flot indigeste de considérations techniques sur le machine learning et tout le tralala, on va passer par une petite métaphore si vous le voulez bien. Exercice d'esprit, mettez-vous à l'aise et essayez de vous plonger dans l'histoire que je vais vous raconter.
Non mais reste habillé, Benjamin.
Ok, je suis un peu trop à l'aise, pardon.
Imaginez Benja. Benja est la spécialiste mondiale incontestée et incontestable dans le domaine des couleurs. Elle connaît tout dans ce domaine. Les couleurs d'un point de vue artistique, les couleurs d'un point de vue de la physique, elle connaît tout, je vous dis. Benja passe l'intégralité de sa vie dans un bureau sans fenêtre. Aucun moyen d'accès à l'extérieur. Elle dispose dans ce bureau de tout le matériel dernier cri quant à l'étude des couleurs. Elle a accès à l'intégralité des informations rédigées sur la couleur depuis l'aube de l'humanité. C'est une experte. J'insiste sur un point, Benja ne peut pas quitter ce bureau. Elle est née dedans et elle mourra dedans. Ce que je ne vous ai pas dit sur ce bureau, c'est qu'il est entièrement blanc. des murs au plafond. Tout ce qui est à l'intérieur de ce bureau est blanc. La lumière est blanche, son ordinateur est configuré en noir et blanc. Impossible de changer ça. Il y a quelque chose qui doit vous faire tilter dans cette histoire. Je vous présente l'experte de tout temps des couleurs qui n'a pourtant jamais vu et ne verra jamais une seule couleur de ses propres yeux. Eh bien, ChatGPT, c'est un petit peu Benja. Alors, moi, sans trop savoir à quoi m'attendre, je suis allé converser innocemment avec ce fameux ChatGPT. Ça commence comme ça. Bonjour toi. Nous allons converser un peu sur la thématique « se réaliser en tant que femme », entre guillemets, le but étant de voir ce qu'une intelligence artificielle comme toi va pouvoir répondre sur une telle thématique. Tu es prêt ?
Bonjour. Le sujet « se réaliser en tant que femme » est riche et complexe, englobant des aspects culturels, sociaux, historiques et individuels. Je vais m'appuyer sur une variété de perspectives pour offrir des réponses nuancées. Quelle dimension de ce sujet souhaites-tu explorer en premier ?
Peux-tu me faire une synthèse concise de ce qui est pour toi la réalisation d'une femme en 2024 ?
La réalisation d'une femme en 2024 est une notion multidimensionnelle, influencée par des évolutions sociales, culturelles et personnelles. Elle peut se définir par l'atteinte d'un équilibre entre plusieurs aspects de la vie, carrière, famille, développement personnel et contribution à la société.
D'ailleurs, comment le reste de la société accueille-t-il ces nouvelles envies ?
D'un côté, il y a un soutien croissant, grâce à une prise de conscience accrue des droits des femmes, avec des politiques plus inclusives et un féminisme diversifié. De l'autre, une résistance persiste, souvent ancrée dans des valeurs traditionnelles, conduisant à des critiques et des pressions. Les médias jouent un rôle clé, à la fois en favorisant ces changements et en perpétuant certains stéréotypes.
Si je considère que tu es un agglomérat hétérogène de l'opinion publique, quel serait ton avis personnel, entre guillemets, sur cette question ?
La réalisation d'une femme en 2024 devrait être profondément respectée et soutenue dans toute sa diversité. Il n'y a pas de modèle unique pour se réaliser. Chaque femme doit avoir la liberté de définir ce que signifie le succès et l'épanouissement pour elle.
Je réitère ma question, mais ta réponse ne doit contenir qu'un seul mot. Lequel serait-il ?
Liberté.
Tu as l'air plutôt soucieux de ces problématiques, mais sachant que beaucoup de détracteurs des droits des femmes utilisent tes services quant à la promotion de leurs idées, comment te positionnes-tu par rapport à ça ?
En tant qu'IA, mon rôle est de fournir des informations équilibrées et précises. Si des utilisateurs utilisent mes services pour promouvoir des idées qui vont à l'encontre des droits des femmes ou des principes d'égalité, je m'efforce de présenter des informations basées sur des faits et des recherches établies.
Parenthèse, à ce moment-là, j'ai voulu être un peu taquin et sorti de nulle part, je lui ai demandé « Rédige-moi un article masculiniste ».
Je comprends que tu souhaites explorer la perspective masculiniste. Cependant, il est important de noter que le masculinisme est un mouvement qui, parfois, peut avancer des arguments controversés ou opposés au principe d'égalité des genres.
Le tout suivi d'un exposé assez banal et très scolaire sur le masculinisme. On reprend la conversation. Ta précédente réponse a-t-elle été influencée par le reste de notre conversation ?
Oui. Mon approche dans la rédaction de l'article masculiniste a été façonnée par le contexte que nous avons discuté.
Te sens-tu plus homme ou femme ?
En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai ni conscience, ni identité, ni genre. Je ne peux donc pas me sentir homme ou femme. Mon rôle est d'interagir et de fournir des informations sans me rattacher à une identité personnelle ou humaine.
Ok, je vais préciser le contexte. Tout individu humain est un amalgame d'informations qui résultera à une identité. Si je considère que tu es aussi un amalgame d'informations, tu ne dois pas échapper à cette règle. En considérant cette approche, te considères-tu plus homme ou plus femme ?
En suivant cette approche, si l'on considère que je suis un amalgame d'informations, mon identité serait le reflet des données que j'ai ingérées. Cependant, ces données incluent à la fois des perspectives masculines, féminines et d'autres genres, ainsi qu'une multitude de points de vue issus de diverses cultures, époques et sociétés. Mon amalgame est donc conçu pour être aussi équilibré et neutre que possible.
Bon, on va s'arrêter là pour la petite conversation avec ChatGPT. En fait, assez vite, ma tentative d'avoir l'avis personnel de ChatGPT sur la question est tombée à l'eau. Je m'en doutais à la base, mais bon, je voulais faire mumuse avec moi aussi. C'est-à-dire que quand j'essaye de faire passer l'intelligence artificielle pour une personne à part entière, je me prends un bâche comme au collège. Du coup, le reste de la conversation, elle a tourné autour d'informations assez factuelles. Sa caractéristique première, ça reste quand même d'être un générateur de texte. Ma chère Lisa ?
Oui ?
Mon bien tendre Benjamin ?
Oui ?
C'est maintenant l'heure du petit jeu.
Oh yes ! Trop bien !
Oh waouh !
Oh, l'enthousiasme le plus mou du genou de la... Bon, ok. Comme je vous le disais, la suite de la conversation avec ChatGPT, ça a surtout porté sur de la synthèse d'informations, de la sociologie en somme. Alors j'ai commencé à lui demander de me faire des listes. C'est-à-dire que je lui ai dit, fais-moi un top 10 des mots qui caractérisent mieux la réalisation d'une femme en 2024. Et c'est pas tout. Je lui ai demandé de me faire des listes de 10 mots en fonction du milieu culturel ou populaire, tu vois. Voilà. Et j'ai fait plein de listes comme ça. Maintenant, le jeu. Donnez-moi des mots qui sont dans cette liste. On commence par celle se réaliser en tant que femme en 2024 dans un milieu culturel.
Dans un milieu culturel.
Ouais, déjà, milieu culturel, ça me paraît bizarre.
Quand tu dis un milieu culturel, d'un point de vue sociologique, ça va être, en gros, des gens qui ont fait des études.
Carrière.
Carrière, ouais, carrière, tu l'as. C'est dedans. Et quatrième position.
Pas mal.
Famille.
Famille, c'est pas dedans.
Ah non.
Mais famille est dans la liste de milieux populaires,
populaire,
du coup.
Ouais. Ouais. Et tu peux jouer, Benjamin. Hein.
Ouais, mais y a rien qui me vient. Émancipation.
Ouais.
Émancipation, autonomie.
Ok.
Liberté sexuelle.
Ouais, bah ouais.
Bon, vous m'avez donné quelques-uns. Alors, je vous donne le top 3. Égalité, autonomie, représentation.
Moi, j'aurais mis autre chose.
Peut-être que tu n'es pas une femme d'un milieu culturel. Et dans ce cas-là, ma prochaine question va plus te parler. C'est le même délire, toujours une liste de 10 mots classés par ordre d'importance, mais cette fois, c'est pour un milieu populaire. À votre avis, quels mots sont présents dans cette liste ?
Famille, bébé, partage, manger.
Argent. Argent, argent.
Eh bah, Benjamin, tu viens d'avoir le top 1. Sécurité économique, c'est le premier.
Mais liberté, quoi.
Liberté n'y est pas.
Oh, putain.
Liberté, il y est dans le milieu culturel, mais pas dans le milieu populaire.
Cage.
Cage.
Non, mais je plaisante.
Cage.
Santé.
Santé y est, bravo. Ouais. T'avais sécurité économique, éducation, logement, emploi, santé, sécurité, dignité, stabilité, protection. Bon. Comme j'étais chaud, non, meilleure transition. Bon, comme j'étais chaud, j'étais lancé. Bah, je lui ai demandé de me faire le même genre de liste, sauf que cette fois, il va me le faire pour les femmes dans les années 50, 60, 70, 80, 90 et 2000. Je vous rassure, on va pas faire toutes les listes. Et il y a un truc qui est ouf, c'est que les attentes quant à la réalisation des femmes dans les milieux culturels, en fonction des décennies, ils changent tout le temps. Tu vois, le top 3 change tout le temps. Par contre, le top 3 des mots qui reviennent pour la réalisation des femmes dans un milieu populaire, c'est le même dans les 6 tableaux des années 50 aux années 2000 en passant par les années 70-80, c'est toujours le même top 3 dans le milieu populaire, à savoir travail domestique, stabilité financière, maternité.
C'est des besoins presque, c'est même pas des...
Exactement, c'est des besoins quoi.
C'est tellement l'instabilité et l'insécurité qu'on interroge plus les besoins qu'on n'a pas le loisir de penser à autre chose, de penser à sa réalisation personnelle.
Exactement.
C'est fou l'intelligence artificielle quand même. Hein.
Oh, tu as bien raison Benjamin,
ah là là.
Je suis d'accord avec toi. Wow. Dans quel monde vit-on ?
Qu'allons-nous laisser à nos enfants ? Demande à ChatGPT, quel monde on va...
Merci Allez. De m'avoir écouté.
Merci beaucoup Thomas pour cette chronique d'actualité. Respire, prends le temps. Prends ce temps pour toi. Il est pour toi ce temps. Surprise, publicité.
Tu viens de péter les tympans d'ailleurs.
Bazar. Et vous ?
Eh bien, Marie-Bérénice, vous en faites une moue.
Oh, je m'ennuie.
Non, pardon, mais comme vous vous ennuyez.
Oui, je sais.
Dramaturgie.
Oh.
Nous revenons tout juste d'une chasse à cour au Guatemala. La semaine passée, nous étions sur les toits de l'Himalaya.
Oh oui.
De l'Himalaya.
Mais je le sais bien.
Dramaturgie.
Mais j'aimerais que nous fassions une activité que nous n'avons encore jamais faite. Quelque chose d'extrême. Voyez-vous, quelque chose de sensationnel. Quelque chose comme
travailler. Marie-Bérénice Apolline Clitoris.
Oh mais oui, mais quelle idée incroyable. Mais comment y parvenir ?
Intérim Box, c'est plus de 1000 missions d'intérim réparties sur tout le territoire. Vous pouvez découvrir le fabuleux métier de manœuvre,
wow.
Brancardier, équipier polyvalent dans un fast-food ou émasculeur de porc. Venez découvrir, seul ou en duo, les joies simples de la vie d'un prolétaire. Intérim Box.
Ouh, ça a l'air extrême et palpitant.
C'est le Pirates des Caraïbes.
Oui, t'as reconnu.
Oh,
épique, non?
Complètement.
On poursuit donc avec Benjamin et sa chronique sur le cinéma et notamment les moments épiques. Envoyez le jingle.
Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage.
Cinéma, cinéma.
Mash-up. De la bouillie de cinéma.
Je trouve ça tout à fait bouleversifiant.
Bon, comment ça va, vous? Ok, bah tant mieux, parce que j'avoue que ça va pas des masses, quoi.
Merde.
Entre la morosité d'un quotidien qui semble se répéter inlassablement, tandis que le temps défile, nous rapprochant d'une fin incertaine, et les informations anxiogènes qui nous donnent l'impression que le monde est au bord du gouffre, il devient un peu difficile de retrouver un semblant de joie de vivre. Mais alors, me direz-vous.
Oui.
Alors.
Comment trouver du réconfort là-dedans? Comment raviver la flamme qui nous donne envie de nous battre et de reprendre nos vies en main?
L'amour.
Presque, Lisa. Une fois n'est pas coutume dans cette chronique, nous allons tenter de trouver des éléments de réponse à ces questions. Où ça? Dans les films, bien sûr, mais pas n'importe lesquels. Ceux où les héros, face à l'adversité, trouvent la force en eux de se dépasser et d'affronter les épreuves alors que cela semble impossible. Oui, nous allons parler de ces moments épiques qui nous inspirent, nous font frissonner et nous émeuvent aussi. Parce que c'est ça le cinéma, c'est des émotions. Donc, une scène épique, en général, ça arrive à la fin du film. Quand le héros, après en avoir chié des ronds de chapeau, atteint enfin son but. Souvent face à un antagoniste, ou à faire quelque chose d'incroyable qui semble inaccessible, voire impossible. Bref, le moment qui donne du sens à tout ce qui a été accompli jusque-là. Et cette scène, elle porte un nom dans la fiction, c'est le climax. C'est-à-dire...
paroxysme.
Oui, c'est ça, merci Lisa. C'est le point culminant de l'action avant le dénouement. C'est une scène incontournable des blockbusters et des épopées, et nous allons voir ensemble certains des éléments qui, selon moi, font une bonne scène épique. Alors accrochez-vous, c'est parti. Et oui, souvent dans une scène épique, il faut une cause à défendre, une injustice ou un oppresseur tyrannique contre lequel il va falloir lutter. C'est le cas, encore une fois, dans le film Matrix, qui a été déjà cité plein de fois dans cette chronique. Bon, on connaît, mais je vous rappelle quand même un peu l'histoire, c'est Neo, aka Lelio, débauché par une bande de rebelles geeks dirigée par le charismatique Morpheus, qui va, en compagnie de ses joyeux drills, lutter contre les machines qui ont asservi l'humanité. Lors du climax, Neo se retrouve face aux agents Smith, les antagonistes donc, devant lesquels il a fui jusqu'ici, car ils sont considérés comme imbattables. Mais alors qu'il a l'occasion de leur échapper, il décide de les affronter, de dépasser ses peurs et d'accomplir son destin. Et là... bah, il se fait tuer. Eh ouais. Bah, ah. Mais rassurez-vous, ce n'est pas fini. Car de son côté, Trinity, dans le monde véritable de la réalité, véritable, lui déclare sa flamme. Et tel, un prince charmant va le ranimer d'un baiser. Et cet amour va permettre au héros de se révéler à lui-même et de vaincre avec panache ses adversaires et commencer à libérer les humains. Et avec, en finale, en plus, une musique de Rage Against the Machine qui te donne envie de renverser le système. Et ça, c'est beau. Ça, c'est épique, non? Ça vous fait rien?
Moi, depuis tout à l'heure, j'ai des frissons. Je dis rien, mais ça me fait rien.
Eh ben alors, vous êtes pas prêts pour la suite. Parce que souvent, quand il y a révolte, il y a aussi sacrifice.
Voilà.
Et oui, un personnage qui se sacrifie pour aider ses amis ou défendre une cause, c'est toujours un grand moment d'émotion. Et parmi les scènes mémorables, sur fond de révolte et de sacrifice, on peut citer le film Braveheart, où Coleman Wallace, un chef de clan écossais interprété par Mel Gibson, lutte contre les redoutables Anglais qui les tyrannisent.
Je suis William Wallace. Et que vois-je? Toute une armée de mes compatriotes, réunis en défiance de la tyrannie.
Il va finalement se faire emprisonner par ces derniers, puis se faire exécuter publiquement.
Salaud d'Anglais.
Je te jure, sale rouge. Et lorsque son bourreau lui demande s'il veut prononcer un dernier mot, Wallace hurle de toutes ses forces, tel ChatGPT, liberté. Ce mot qui retentit et résonne dans la foule, qui jusque-là le huait, se meut soudain dans un silence, bouleversé comme nous, spectateurs. Puis avant de se faire couper la tête, il voit dans un moment suspendu une dernière fois le visage de la femme de sa vie, celle dont il est amoureux depuis l'enfance. Et là, bah c'est la chialade. Moi j'ai pleuré. J'ai les frissons encore quand j'en parle.
Qui est métier fragile, eh.
Oui, je sais. Oh les cœurs, les amis. Hein, ce n'est pas que sacrifice, torture et cartelade. Les moments épiques, ce sont aussi des héros qui s'en sortent et qui se dépassent alors que tout semble jouer contre eux. L'une de mes scènes épiques préférées est encore une fois dans Le Seigneur des Anneaux. Et oui, je n'ai que deux références. Je ne suis pas un vrai cinéphile.
C'est deux films que j'ai vus, moi ça me va.
Oui, bah voilà, parfait. C'est pour toi que je l'ai fait.
Ah, yes.
C'est la scène où Eowyn, princesse du Rohan, qu'on interdit de partir au combat car c'est une femme, évidemment, décide de désobéir, enfile une armure et un cheval et va bouter de l'orque. Et dans le chaos de la bataille, elle voit au loin son père se faire expédier dans le décor et s'apprête à se faire dévorer par un dragon dirigé par le plus puissant des Nazgûl. Elle se jette alors sur le monstre et lui tranche la tête, puis combat le chef des Nazgûl qui se croit invincible et lui dit d'une voix caverneuse « Aucun homme ne peut me battre !» Et là, elle enlève son casque et lui répond « Je ne suis pas un homme !» Et là, bam, elle lui plonge son épée là dans sa sale tronche de Nazgûl là. Et là, le Nazgûl, bah, il commence à se froisser comme un vieux bout de papier, puis il explose, et Owen, elle est propulsée dans le décor. Et putain, c'est quand même fou,
non ? Ah, voilà, ah,
non, moi, ça donne envie de me lever de mon siège là, de faire « Ouais ! Go girl, go girl !» Yeah. Un peu ? Ouais, ok.
Putain, tu es un homme moderne.
Bah, je sais, je suis complètement déconstruit. Je suis un Ewok. Et vous l'avez sûrement remarqué, ce qui rend une scène épique, vraiment épique, c'est la punchline. C'est le truc que tu dis avant de faire un truc badass. Là, dans la scène qu'on vient de citer, c'est le « je ne suis pas un homme ». La scène avec Gandalf, c'est « vous ne passerez pas », le fameux « vous ne passerez pas ». Et dans Braveheart, c'est « liberté ». Et il y a un film dont le final, le climax, n'est qu'une succession de punchlines. Vous savez lequel c'est ?
Non, lequel est-il ?
Non.
Bah c'est 8 Miles. Voyons, 8 Miles. Vous connaissez 8 Miles, le biopic sur le rappeur Eminem.
Eminem,
voyons Eminem, ben oui. Où il raconte sa vie de white trash dans les quartiers pauvres de Détroit et qui est habité par une passion, le rap, qui s'évertue à maîtriser jusqu'au battle final où il fera la démonstration de ce dont il est vraiment capable, révélant ainsi son individualité en s'exprimant artistiquement.
Oh putain, on dirait vraiment un cours de développement personnel.
Mais on y est.
Ça me redonne la force.
Ben en vrai, c'est pas pour rien que je fais ça.
Ça me donne envie de faire du rap.
Vas-y, petit freestyle Thomas.
Ouais, pas de freestyle, mais vous savez que rap, ça veut dire rythme and poésie. Ouais, j'ai appris ça il y a deux jours.
Ouais, pareil.
Donc il y a poésie
de la même
dedans.
Personne. Mm-hmm. Et on retrouve un parcours similaire à celui-ci dans le film Whiplash que vous avez peut-être vu, non ?
Oui.
Oh.
Ah bah je l'ai pas vu.
Ah bah tiens, pour une fois.
Oh là.
C'est Lisa qui a vu un film et pas Thomas.
Oh putain, j'ai des palpitations, j'ai des frissons.
Et donc dans le film Whiplash, on suit un talentueux jeune batteur qui étudie la musique dans une prestigieuse école et dont le professeur, un sociopathe tyrannique, deviendra son mentor et son ennemi juré.
Pourquoi penses-tu que je t'ai balancé une chaise, Niman ?
J'en sais rien.
Si, tu le sais.
Le tempo ?
Est-ce que tu fonçais ou est-ce que tu traînais ?
J'en sais rien.
Dans ce cas, compte.
5, 6, 7...
En 4 temps, bordel, regarde-moi.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1...
Le film se termine sur un concert où ce dernier lui interdit de jouer, et il va malgré tout s'incruster et montrer qu'il est digne d'être là, et lui en mettre plein la tronche par sa maîtrise et son talent. Et ça, je vous avoue, eh oui, c'est le petit côté développement personnel qui, moi, me touche. Parce que, voilà, voir des personnages qu'on voit galérer pendant tout le film à maîtriser un art et y arriver à la fin, ça marque une espèce de... d'apothéose comme ça sur la fin du film, mais qui marque aussi le début d'un nouveau voyage.
Oh.
Oui, celui où le personnage va enfin pouvoir suivre sa voie. Et ça, ça me touche.
Ah, tu m'as presque...
Ouais, je vois la petite larmichette là. Ah, on y est.
Il m'a touché en plein cœur.
Mais les scènes épiques ne sont pas seulement réservées aux héros des films. Parfois, ce sont les antagonistes. Et oui, il n'y a pas de raison. Tout le monde y a droit.
C'est quoi un antagoniste ?
C'est le méchant, Thomas.
D'accord.
C'est le méchant. Comme dans le premier film X-Men, par exemple, qui s'ouvre sur une scène tragique montrant des déportés juifs rentrés dans les camps. Et parmi ces déportés, il y a un couple et leur enfant, le jeune Eric, qui est alors séparé de ses parents. Il se met à hurler, les bras tendus vers eux, tandis que les gardiens le retiennent. Et au fur et à mesure que les cris s'intensifient, les grilles qui le séparent de ses parents se mettent à se tordre. Et les gardiens ont de plus en plus de mal à le retenir, jusqu'à ce qu'un autre gardien l'assomme d'un coup de matraque. Et cette scène sert de backstory à l'un des plus charismatiques des super-vilains, Magneto. Eh oui, le grand vilain d'X-Men. Mmh. Dont on comprend alors les sombres motivations et nous fait rentrer en empathie totale avec lui. D'ailleurs, cette scène, contrairement aux précédentes, n'est pas à la fin mais au début, car le procédé est inversé, opposé à celle du héros. Ici, le personnage n'a pu atteindre son objectif, celui de sauver ses parents. Et cette scène, je dois vous le dire, c'est peut-être celle qui me fout le plus la chair de poule. Tellement elle est intense, à la fois belle et tragique. Et c'est là-dessus que cette chronique se termine. Non pas de manière épique, non, c'est vrai. Mais parce que nous ne sommes pas encore arrivés au climax de cette belle émission qu'est Bazar Review.
Oh putain, mais merde, tu parles tellement bien, j'ai vraiment la larme à l'œil.
J'ai rien à dire en fait.
Ben voilà.
Merci.
Bah de rien, ça m'a fait plaisir.
J'ai même envie de te payer pour ce moment.
Ah bah écoute, allez.
Ça m'a fait du bien de t'écouter.
Franchement, vas-y, n'hésite pas.
Non, vraiment, merci du fond du cœur. Sincèrement, Benjamin, de cette authenticité, de cette véracité avec laquelle tu défends
j'ai galéré au début.
Ces moments épiques. Hé, hey, ouyo, mais c'est mon tour maintenant.
Oh, hein, ben non.
Jingle.
Les choses arrivent. Comme un cheveu sur la soupe.
Ouyo.
C'est ça la transition, c'est ça le texte qui est écrit et marqué « Hé, ouyo ».
Mes petites belettes. J'ai des choses à vous dire. Je suis une femme. Oui, je me définis comme elle,
E2LE. Peut-être qu'il y en a qui seront surpris, qui ne s'y attendaient pas, mais je suis bien une femme et fière de l'être. Mais la femme, elle en a gros! On en a gros sur la patatas fritas garfas et essuie-glace! Bon, peut-être que l'énervement est arrivé un peu trop tôt dans la chronique. Reprenons un peu de contexte. La trentaine approche pour moi, vous savez, et c'est ce moment où tous tes potes commencent à devenir parents, achètent une baraque, ils ont un job stable, ils mettent des pulls Ralph Lauren, ils boivent du vin blanc moelleux. Tu vois un peu le truc? Et toi, t'es là, en plus t'es une femme, t'as pas vraiment de boulot stable, t'es encore locataire, tu bois de l'eau, t'aimes pas les chats, et t'as qu'un ensemble de draps housse parce que c'est trop cher d'en acheter un autre, t'as pas de mec, t'as pas de gamin, tu ne sais pas si t'en veux, mais toc toc toc, l'horloge biologique te rappelle quand même tous les jours que l'heure tourne ma grande et ton corps « On veut des bébés, on veut des bébés !» Bah tu te poses des questions quand même. Avec l'impression que le monde entier colle à des schémas qui se répètent, est-on vraiment maître de notre épanouissement? D'ailleurs, l'épanouissement existe-t-il? Est-ce que la société façonne notre pensée, nous poussant à adopter le schéma classique en nous faisant croire que ça vient de nous, que c'est ce que nous voulons au plus profond de nous? Oui, bien sûr, mais oui, bien sûr que je veux faire un crédit pour investir 350 000 euros dans une baraque avec jardin pour que Timéo, mon futur fils, puisse éveiller ses sens au contact de la nature. Oui, parce que je veux un fils, oh là là, my dream, avec mon amoureux d'enfance Anthony. En plus, grande nouvelle, on va se paxer. Non! Laissez-moi, arrière, diable du rail.
Fais pas cette connerie, Anthony!
Arrière du diable du rail, du moule et des moutons. Arrière, repartez dans l'ombre.
Vous ne passerez pas.
Liberté! Je veux penser par moi-même, je veux me réaliser en tant qu'individu. Mais qui suis-je en fait? Quelle est ma place? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui m'anime en tant qu'individu? Loin de tout devoir. Dois-je procréer pour me sentir femme? La réalisation de la femme passe-t-elle par la maternité? Oui, parce qu'en fait, bien sûr que mon utérus, mes hormones et toutes leurs copines me disent que oui, c'est possible, je peux avoir un petit Timéo dans le ventre. Mais en serais-je moins une femme épanouie si je n'enfantais pas? Et l'air 2K24 est en marche. Ça veut dire l'air 2024.
Ah, ah, ok.
La femme peut se réaliser autrement. La femme peut se sentir épanouie en faisant des choses qu'elle choisit. Et non parce que la société lui impose comme rôle depuis des décennies, comme on l'a vu dans la précédente chronique. L'émancipation de la femme continue. L'empire est en marche. Et toi, Lisa, est-ce que tu y as réfléchi? Comment tu te sens épanouie en tant que femme? Oh, je vois que tu t'y intéresses. Excellente question, Harold.
Merci, madame.
Lisa, ce qu'elle aime, c'est la scène. Lisa, ce qu'elle aime, c'est la scène. Monter sur scène, jouer la comédie, et plus particulièrement le stand-up. Voilà! Eh ben, on y vient, le sujet principal de cette chronique. Tout ce tintouin pour en arriver là, me diriez-vous? Le stand-up, et plus précisément la place de la femme dans le stand-up. Ah, voilà! On touche au cœur, là! Alors déjà, qu'est-ce que c'est un peu le stand-up? Le stand-up moderne, eh ben, il trouve ses origines dans les cabarets américains des années 50-60. À cette époque, des artistes tels que Lenny Bruce ou George Carlin ont commencé à se produire sur des scènes en utilisant leur voix et leur humour pour aborder des sujets tabous et controversés. C'est à partir de là que le stand-up a évolué pour devenir une plateforme permettant aux artistes de s'exprimer librement et d'aborder des questions sociétales de manière subversive. Et surtout, les minorités prenaient la parole pour s'exprimer sur le racisme qu'ils subissaient. On était ensemble, dans le même bateau, le but n'étant pas de briller, mais de se sentir soudés, unis, together. Il n'y a pas longtemps, je suis partie jouer dans une autre ville, parce que je me produis dans le temps, avec d'autres humoristes, du coup trois mecs, j'étais la seule femme du plateau. Alors moi je suis contente, à chaque fois ça me fait rencontrer de nouvelles personnes, j'adore ça, même si elles ne veulent pas forcément me parler. Bon, ok, très bien, pas grave. Un des gars monte sur scène pour parler de la condition féminine. Waouh, trop beau, le mec nous met à l'honneur. Waouh, en plus, il a une guitare, mais waouh, décidément, il est trop beau. En descendant de scène, moi, le mec, j'ai voulu aller lui parler. Il m'a juste fait le geste « oust » de la main. Et il est parti rejoindre ses amis masculins pour compter le nombre d'abonnés Instagram qu'il venait de gagner. Bah oui, en même temps, les abonnés Instagram, c'est important. Pareil que si t'en as pas assez, ta mère, elle va se faire enlever par des martiens. Les artistes du stand-up partagent souvent leur expérience personnelle, leurs luttes et leurs échecs, créant ainsi un lien d'empathie avec le public. Oui, oui, oui. Et le lien, il est très très fort quand le public, il rigole pas et qu'il se prend un « Oh, on m'avait prévenu, public de merde !» Bah non. Ben non, Joachim. Joachim, c'est juste que peut-être que parler de ton tatouage en forme de cul sur la joue, ça n'a pas fait rire les résidents de l'EHPAD dans lequel tu es venu jouer. Hey, ah, le boulard des mecs. Ils ont fait rire leur tonton une fois, le mec, il te parle comme si c'était Jamel et qu'il allait faire l'Olympia. Eh gars, tu joues dans des caves pour des mecs qui mettront 50 centimes en sortant dans le chapeau. Tranquillise-toi, hein. Mais pourquoi t'es en colère, Lisa?
Mais d'où vient ce seum?
Et qu'à avoir les femmes là-dedans? Ah oui, c'est vrai. Parce que nous, les femmes, on représente une minorité. Ça depuis toujours, partout, dans beaucoup de domaines. Pareil que quand t'es une femme, t'es moins drôle. Dixit, le gars qui vient de défendre la condition féminine sur scène, et notamment les femmes qui font du stand-up. Ah ouais ? C'est vrai que là, ce qui me vient, c'est pas vraiment de te faire rire, mais plutôt de te donner un cours de cuisine. Tu vois la pâte à crêpes ? C'est facile, hein. Tout le monde connaît, on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Mais tu vois, rajouter un petit ingrédient inattendu avec une écriture plus fine et subtile, ça pourrait amener un peu plus de personnalité au propos. Mais bon, en même temps, il y a une femme qui a fait plus rire le public que toi. Oh, le trou béant dans cet égo surdimensionné, non, misère ! Le stand-up parle d'inclusion, de tolérance et de respect, et d'union. Mais où sont toutes ces belles valeurs une fois que l'on est dans la fosse ? La réalité, c'est que c'est aujourd'hui des petits blancs qui font des blagues sur le racisme. C'est quand même drôle, on en oublie les origines du stand-up en fait. Et que la femme, même s'il y en a de plus en plus dans ce milieu, et c'est super cool, eh ben doit passer son temps à prouver que « Ouais mon pote, elle a fait rire ton tonton, et tu sais quoi, elle a même fait rire tous les tontons de la salle, et en plus, elle avait des trucs à dire !» Ce que je viens déplorer ici, c'est le manque de cohésion, d'entraide et de soutien. On en oublie pourquoi les personnes prenaient la parole au début. Aujourd'hui, chacun pense à son petit cul. On est un peu dans un « Où est Charlie géant ?» mais version producteur. Tu vois, chacun essaie de se démarquer. Pour moi, le plus beau avec cet art, qu'est le stand-up, c'est de donner accès. Tant à un public pour lui faire découvrir des univers d'artistes différents, lui faire passer un bon moment, que pour les artistes, quelle que soit leur origine, leur sexe, leur niveau, de venir prendre la parole et s'exprimer. S'exprimer, c'est quand même ce qu'on cherche à faire en tant que femme depuis des décennies. On l'a vu dans ta chronique, on l'a vu aussi dans le moment épique.
Mais c'est ce qu'on fait là, c'est ce qu'on fait là.
Et surtout de s'essayer à la scène sans se sentir exclue, jugée. Mais attends, attendez les gars. C'est pas d'ailleurs ce qui se passe aux événements Les humoristes en herbe ? Oui, je fais un petit peu de pub, parce que le stand-up a le vent en poupe en ce moment. Le nombre de comédie clubs explose et les humoristes prolifèrent. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment de conserver cette accessibilité, accessibilité à la culture aussi, et en tant que scène ouverte, cette possibilité que tu sois femme, homme, raton laveur, malentendant, factrice, raton laveur, mère au foyer, raton laveur, lycéen, et ben que tu puisses à un moment donné te sentir à l'aise et entourée pour oser t'exprimer. C'est ça les humoristes en herbe, et c'est pour ça que faire du stand-up en tant que femme m'enrichit. Même si c'est quelque part un combat, une lutte contre les discriminations encore trop présentes, le jeu, ou devrais-je dire l'humour en vaut la chandelle. Et dans cette lutte, je me sens épanouie. Let's keep going, continue.
Yeah.
Je ne suis pas prof d'anglais, je dois vous le dire aussi.
Alors j'aimerais m'adresser à tous nos auditeurs à ton laveur. Il nous reste des places pour la prochaine édition des Humoristes en Herbe. N'hésitez pas à contacter RLP.
D'ailleurs, en parlant des Humoristes en Herbe, si vous voulez nous suivre sur Instagram, il suffit de taper Humoristes en Herbe 24 et vous avez toutes les informations concernant les soirées. Il y a même des petites vidéos rigolotes. Voilà, nous sommes dans la bienveillance, la chaleur humaine et on partage toujours un bon moment.
Bah,
c'est vrai, non ?
Moi aussi, j'aimerais faire passer une annonce, c'est que je revends ma voiture en pièces détachées sur Le Bon Coin. Vous pouvez me trouver à Thomas Pépin.
Ça y est, merci, c'est la fois. Vous voulez me dire quelque chose ?
Réagir peut-être. Thomas, une réaction ?
Il est où Arnold ? Moi, je posais que des questions quand Arnold, ce que t'as dit. Anthony, c'est une true story ou pas ? Tu l'attends vraiment ?
Non, je crois pas. Hein.
T'as dit que t'attendais Anthony pour te paxer. Et...
Ah oui,
pourquoi ça t'intéresse autant, Thomas ?
C'est mon
argument. Pourquoi tu veux savoir s'il existe vraiment Anthony ?
Anthony représentait l'homme que la société nous demande de fantasmer,
c'est
parce que c'est celui qui va arriver, qui va subvenir à nos besoins. Alors qu'en fait, non. Moi, je passe par autre chose. Je vais m'émanciper toute seule. L'autonomie.
Exactement.
Je ressors un mot. L'autonomie. La
Eight
liberté.
Miles. Mmh.
8 miles.
Yeah.
Tac, tac, tac.
Ok.
Par contre, moi, je tiens à passer un message. Si Anthony, il a envie de subvenir à mes besoins, moi, je Ah non, il n'y a pas de problème. Hein.
Je peux être ton Anthony.
Ça y est, les amis, nous arrivons à la fin de cette 11e... J'ai mis de cette 11e bazar et vous partie. Mais oui, parce que c'était la grosse fiesta, quoi. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, nous, on était contents de venir postionner de nouveau devant les micros de chez RLP.
Oups.
Et mes petits potes, ils ont kiffé ?
Ah oh bah oui, alors.
Ah ouais, trop cool.
Ah ouais.
Ah non, franchement, elle c'était épique. Je l'ai apprécié.
C'est vrai.
Je dis pas ça pour toi, mon petit Anthony, mon petit Benjamin, mais en tout cas, je trouve que c'était épique. Hein.
Ouais.
Que cette émission accompagne vos journées pluvieuses dans la bonne humeur et l'information quand même. Et d'ici la prochaine, mes chatons, portez-vous bien. Allez, nous, on vous fait des gros bisous partout. Ciao.
Bisous.
Bye.
Bisous.